Chapitre 15. Bobby Deacon avait beau disposer d'une fortune de 5 millions de dollars, il se contentait de motels de catégorie moyenne disposant d'une connexion Wi-Fi lorsqu'il ne vivait pas dans son Sprinter Mercedes, qu'il avait un jour décrit comme « le bâtard fastueux d'un camping-car de luxe et d'une camionnette d'artisan ». Les rares fois où cette formule lui revenait, il y mettait invariablement des connotations sexuelles marquées. Il avait fait rallonger d'un mètre l'espace de vie de son sprinter, séparé de la cabine par une cloison en loupe d'érable vernie disposant d'un écran plasma intégré et d'un lecteur de DVD. Il disposait également d'une chaîne Bose, de stores électriques aux fenêtres, d'un réfrigérateur capable d'accueillir 24 canettes, d'une moquette de laine vierge, ainsi que de deux fauteuils inclinables habillés de cuir couleur crème. Au fond de la pièce, une porte permettait d'accéder à des toilettes équipées d'un lavabo disposant d'eau chaude et froide. Enfin, les 6 batteries alimentant la climatisation de l'espace de vie avaient une autonomie de 4 jours. Bobby préférait les sprinters noirs, mais il avait opté pour une carrosserie blanche, les études de psychologie démontrant que les véhicules clairs attiraient moins l'attention. De même, il avait parfaitement conscience de l'aura de respectabilité qui entourait le nom de Mercedes, avec son sigle bien reconnaissable. Personne ne penserait jamais à mal en voyant un sprinter blanc garé dans un quartier résidentiel. Cet anonymat permettait à Bobby de multiplier les cambriolages, parfois de commettre un viol si l'occasion se présentait, voire un meurtre, comme cela lui était arrivé par 2 fois. Il ne se considérait pas pour autant comme un criminel, préférant se voir sous les traits d'un justicier. D'ailleurs, s'il lui arrivait un jour de devoir préciser son métier sur un formulaire, il inscrirait le mot « justicier ». Il lui arrivait de rêver qu'il se promenait avec un t-shirt arborant fièrement cette fonction. Si le rêve était peuplé de violence, le mot était écrit en lettres majuscules. « Justicier ». Bobby devait bien le reconnaître, la plupart de ses rêves étaient violents. Âgé de 29 ans, il mesurait 1,85 m et pesait à peine 63 kilos, une maigreur qui l'incitait à se décrire comme un whippet, ces chiens minuscules qui dissimulent rapidité, agilité et puissance sous le manteau de leur élégance. Lors d'un cambriolage commis à l'époque de ses 20 ans, Bobby Deacon s'était retrouvé nez à nez avec une femme au foyer particulièrement sexy dont il s'était occupé des heures durant. La femme se prénommait Meredith. Lorsqu'il en avait eu fini avec elle, elle tremblait de haine plus encore que de terreur et l'avait traitée de tous les noms, l'accusant d'être aussi immonde qu'une araignée blanche. Il avait rétorqué qu'il ressemblait à un whippet, mais elle insistait pour le traiter d'araignée blanche. Sa colère était si grande qu'elle ne se souciait même plus de se mettre en danger en l'invectivant. On aurait pu croire qu'elle n'avait plus rien à perdre, ce qui n'était pas le cas. Bobby ne se déplaçait jamais sans un pistolet, mais il s'était refusé à la tuer, préférant qu'elle se souvienne à jamais de la visite d'un justicier dans sa jolie maison. Pour prix de son arrogance, Meredith avait hérité d'un nouveau visage que Bobby lui avait sculpté à l'aide des couteaux qui ne le quittaient jamais. Confortablement installé dans l'un des 2 fauteuils de cuir, il regardait l'écran sur lequel se détachait la silhouette de la maison située de l'autre côté de la rue. Les caméras, habilement dissimulées tout autour du sprinter, permettaient à Bobby de surveiller les alentours ou encore de zoomer sur la façade. Ce quartier huppé de Scottsdale, en Arizona, ne manquait pas de belles propriétés et celle qui excitait sa convoitise appartenait à Sigef et Nazia Cantor, 2 dirigeants d'entreprises respectivement âgés de 52 et de 50 ans. En plus de collectionner les monnaies anciennes, Sigef partageait avec sa femme la passion des trésors art déco. Les Cantor avaient veillé à rester discrets sur les réseaux sociaux, mais Internet est une mine de renseignements pour qui sait s'en servir, de sorte que Bobby Deacon savait de Sigef et Nazia tout ce qu'il souhaitait savoir. Les cambrioler, en plus d'être une opération juteuse, ne serait que justice. Bobby n'avait jamais croisé la route de Rupin qui ne mérite pas d'être cambriolée. Il n'avait que ce qu'il méritait puisque Bobby était un justicier. Le système d'alarme de la propriété ne l'inquiétait nullement. Un bon spécialiste comme lui viendrait à bout de l'équipement le plus sophistiqué. Outre les bijoux et les sculptures art déco, il comptait s'emparer de la collection de Sigef, estimée à $500,000. Elle était enfermée dans un coffre, mais aucun coffre n'avait jamais résisté à Bobby Deacon. Ce dernier était néanmoins inquiet. Sigef et Nazia s'étaient envolés la veille pour 15 jours de vacances en Angleterre, de sorte que la maison aurait dû être inoccupée. Le père de Nazia, un veuf de 81 ans nommé Bernie Rigovitz, avait la bougeotte et passait son temps sur les routes à revisiter les lieux explorés autrefois avec sa femme Myriam, décédée depuis. À cette heure, Bernie était censé se trouver à mi-chemin de la Floride. Une semaine plus tôt, lors d'un repérage de nuit, Bobby en avait profité pour installer de minuscules micros sur plusieurs fenêtres. Au lieu de transmettre les sons et les conversations, ces petites merveilles de technologie les enregistraient sur une puce disposant d'une autonomie de 48 heures. Le moment venu, Bobby avait récupéré ses micros et en avait ensuite téléchargé le contenu, ce qui lui avait permis de tout savoir sur ce qui s'était dit entre Sigef, Nazia et Bernie. Bobby avait presque l'impression d'appartenir à la famille à présent, ce qui ne l'empêchait pas de continuer à mépriser ses trois cibles. Après tout, la famille n'était-elle pas un creuset de ressentiments plus ou moins avoués? Plus les membres d'un même clan se connaissaient, plus ils avaient de raisons de se détester tant l'iniquité et l'injustice gangrènent le cercle familial. Bobby Deacon en avait fait l'amère expérience. Toujours est-il que Bernie n'était pas parti pour la Floride. Et ce n'était pas tout. D'abord, il y avait les chiens. Deux bergers allemands débarqués d'on ne sait où qui obéissaient à Bernie au doigt et à l'œil. Les cambrioleurs ont davantage d'affinité avec les chats qu'avec les chiens, et le seul moyen de cambrioler la maison des Cantor était d'endormir les bergers allemands. Bobby les aurait volontiers abattus, mais cela risquait de s'entendre dans un quartier aussi paisible, même avec un silencieux. Bref, Bobby aurait pu se charger du vieux Bernie et des chiens, mais c'était sans compter sur le gamin. Un gosse d'à peu près 5 ans, qui ne sortait jamais jouer, se contentant d'observer la rue depuis la fenêtre. Sigef et Nazia avaient 2 filles, mais elles ne vivaient plus chez leurs parents depuis qu'elles étaient mariées. Surtout, ni l'une ni l'autre n'avaient d'enfants, de sorte que la présence du gamin était parfaitement mystérieuse. Bobby pouvait endormir les chiens avec un fusil hypodermique. Il était parfaitement capable de trancher la gorge du vieux et du gamin dans leur sommeil, sans le moindre bruit, à ceci près qu'il n'aimait pas les gosses car ils étaient imprévisibles. On ne pouvait jamais deviner la réaction d'un chiard. Ce petit enfoiré était capable d'ameuter le voisinage en poussant des cris d'orfraie. La nuit précédente, malgré la présence des chiens, Bobby s'était risqué à explorer une nouvelle fois la propriété afin de coller l'un de ses micro-miniatures sur la fenêtre de la cuisine. S'il y avait bien une pièce où le vieux et le gamin étaient susceptibles de discuter, c'était là. Il lui suffirait de retourner chercher le micro ce soir quand tout le monde dormirait, en espérant que les conversations captées l'éclairent sur la situation. L'objectif braqué sur la maison des Cantor envoyait sur l'écran un plan moyen de la façade. Seules les pièces du rez-de-chaussée étaient éclairées. Bobby zooma brusquement en voyant un mouvement de l'autre côté de la baie vitrée du salon. Le gamin, planté devant la fenêtre, observait la rue. Un beau gamin que personne n'aurait eu l'idée de comparer à une araignée blanche. Plus encore que l'intelligence ou la richesse, la beauté était une injustice suprême aux yeux de Bobby. Pourquoi fallait-il que la nature accorde la beauté à certains et la laideur à d'autres? Les gens beaux disposaient d'un avantage honteux. N'importe quel justicier soucieux d'équité aurait voulu redresser le fléau de la balance en s'attaquant prioritairement aux gens beaux.